mientras que no se ha solucionado las cosas, mientras que existe el hambre, la miseria, las enfermedades y toda clase de injusticia, no vamos a comprometer a entregar las armas.
Bonjour, je suis Lourdes Morales Canales. Je viens de soutenir ma thèse sur les systèmes politiques de Oaxaca, au Mexique, et ses liens avec la représentation politique indigène. Et donc, pendant la période d'études, j'ai pu connaître un peu les contradictions de Oaxaca, c'est-à-dire un État qui a reconnu les plus de droits politiques aux indigènes, et par droit politique, je parle de pas seulement de droits de participation et des votes, mais aussi des droits liés à l'identité. Parce que Oaxaca présente plein de particularités. Tout d'abord, c'est l'État à la plus forte concentration des populations indigènes, un tiers du pays. Ensuite, c'est un État l'un des plus pauvres de tous les Mexiques, c'est l'avant-dernière avant le Chiapas. Et aussi, c'est un État qui a une forte fragmentation territoriale. Ulises Ruiz, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il arrive au pouvoir, sa seule préoccupation, c'est l'élection présidentielle de 2006. Parce que lui, il était très proche du candidat à la présidence du PRI. Donc, tout d'abord, à chaque fois qu'il y a un problème, il invite les leaders à négocier. Et au lieu de négocier, il les met en prison. Ensuite...
Il leur tend des pièges, quoi.
Oui, il tendait des pièges. Ensuite, il décide, on ne sait pas pourquoi il a pris cette décision, il décide de changer la place des pouvoirs publics. C'est-à-dire que les palais du gouvernement, qui c'est un symbole de pouvoir, qui s'est trouvé au centre de la ville de Oaxaca, il décide de changer la place du palais du gouvernement. Il les met à côté de l'aéroport, et c'est là où il s'est mis à travailler. Et à la place, il décide de fonder un musée. Et donc, du coup, la population se trouve devant un gouverneur qui ne sait pas négocier, un gouverneur qui ne parle jamais, un gouverneur qui est toujours absent, parce que sa seule préoccupation était l'élection, donc il était tout le temps à la ville de Mexico, on ne les voyait jamais. Un gouverneur qui ne rend pas visite aux communautés, quelque chose qui est très important à Oaxaca pour le gouverneur. Donc, toute cette situation produit une sorte de malaise qu'on sentait déjà depuis 2005. Aussi, il entreprend des actions répressives envers les journaux noticias. Et vraiment, il interdit à toute institution publique de s'annoncer dans ces journaux. Et il essaye vraiment de casser les directeurs du journal. Donc ce qui a fait scandale et qui finalement a amené aux gens de noticias de trouver des alliances entre les collègues de la presse mexicaine. Même si les noticias n'étaient pas non plus les journaux, un journal exemplaire. Depuis 26 ans, à Oaxaca, les instituteurs organisaient une manifestation. On avait les éternelles manifestations des professeurs qui siégeaient dans les rues de Oaxaca pendant une ou deux semaines à peu près. Après, les leaders négociaient avec les gouvernements des droits de travail, des augmentations salariales, etc. Donc cette année, ils les font, comme tous les ans, commencent à manifester. Donc Ulises Ruiz, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, cette négociation me coûte trop cher, je ne vais pas négocier, je vais finir avec le clientélisme du gouvernement. Donc c'est d'ailleurs que lui, il décide de casser les dialogues, casser les voies de négociation. À mon avis, tu ne peux pas dire à ces organisations habituées à établir ce type de liens avec les gouvernements, tu ne peux pas leur dire « je ne te donne plus rien » si tu ne donnes rien en échange. Parce que, évidemment, ça produit un conflit. Donc Ulysses Rubis, au mois de mai, dit « Moi, je négocie pas, on va rien vous donner, et démerdez-vous. Moi, je vais rien vous donner, parce que c'est fini le clientélisme. » Entre-temps, il avait utilisé de l'argent de l'État, des ressources publiques, pour faire des soi-disant des œuvres publiques. Il a décidé de renouveler les Zocalo, et il n'avait pas besoin de faire ça. Et donc, évidemment, les gens, ils s'étaient vachement vexés. Ils disaient, mais ils se foutent de nous. Donc, les instituteurs commencent leurs manifestations, les choses se prolongent, les dialogues n'avancent pas. Et jusqu'au mois de juin, donc les élections, elles étaient vraiment très proches. Les élections, c'était le 2 juillet. Et c'est là où on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a plusieurs versions. Le 15 juin, Ulysses Ruiz décide d'envoyer la police. Il faut savoir aussi que les professeurs sont très importants à Ouarara. Toutes les familles ont au moins un professeur dans la famille. C'est une source d'emploi très importante. Donc il décide d'envoyer la police pour réprimer les manifestants. Donc pile le 15 juin, deux semaines avant les élections, Ulysses Ruiz décide de réprimer les manifestants. À partir de ce moment, les gens n'ont pas aimé cette répression aux instituteurs, aux professeurs. Et c'est là où plusieurs organisations qui étaient déjà touchées par cette forme de gouverner décident de créer la APO, l'Assemblée Populaire des Peuples de Oaxaca.
Sur quelle base?
Alors voilà, la base, c'était la seule chose. C'était des organisations très hétérogènes entre elles. On retrouve des organisations proches de la guérilla, mais on retrouve aussi des organisations qui ont été dans les réseaux clientélistes depuis des années. Donc voilà, c'est là où commence une sorte de mouvement citoyen et on commence à voir, on va dire, un ressurgissement de la société civile. Où au début, ils soutenaient vachement l'APO, et ils essayaient de mettre en place des moyens de décision très démocratiques, mais quand même, il y avait tellement de différences entre une organisation et l'autre que le système, on va dire, un peu vertical du syndicat de la section 22 dominait dans les choix et dans les stratégies. Donc, évidemment, il y a eu des conséquences au niveau électoral. Pour la première fois, c'est la gauche qui gagne 9 sur 11 districts de Oaxaca. Et donc, malgré ces résultats, ils décident de ne pas négocier. Et les mouvements se radicalisent et continuent à demander la démission du gouverneur. Alors, voilà les problèmes. Et c'est là où c'est venu très évident. Oaxaca, c'est l'un des États du pays qui permet une forte concentration de pouvoir dans les mains du gouverneur, plus que dans d'autres états. Situation qui s'est vachement renforcée pendant la période de José Moura. Malgré cette demande de démission du gouverneur, on retrouve qu'il n'y a pas de mécanisme juridique efficace pour l'obliger à sa démission. La seule voie possible, c'est soit que les congrès locaux décident de le remplacer, soit le Sénat qui doit prouver qu'il n'y a pas une vraie gouvernabilité et que donc le gouverneur doit démissionner. Mais à Oaxaca, il y a toujours les congrès locaux a été toujours gouverné par les pères et les fidèles des gouverneurs, donc ils ne vont pas se tirer une balle dans le pied. Donc ils ne l'ont pas fait. Les mouvements se radicalisent et on passe Au mois d'août, septembre, tout le monde croyait que les gouverneurs allaient tomber un jour ou l'autre. Ben non, au contraire, on assiste à des actions répressives telles que la création d'une police de la mort, c'est-à-dire que pendant la nuit, des gens cagoulés tuaient des gens qui étaient dans les plantons. ou bien il faisait peur en utilisant des armes de feu. Ou bien il faisait tout pour montrer que la peau c'était des gens très très radicaux, très radicaux, qui n'étaient pas prêts à négocier et qu'il fallait les réprimer. Et au mois de septembre, les congrès qui ne pouvaient plus siéger, parce qu'à chaque fois qu'ils essayaient de se réunir, il y avait les manifestants qui les empêchaient, les gouverneurs qui ne pouvaient plus faire une apparition publique, parce qu'à chaque fois qu'ils se montraient, il y avait des agressions de la part des gens de la peau. Et on arrive au mois de septembre, et comme par hasard, les congrès, bah, les députés, on ne sait pas où ils sont siégés, hein, ont voté aux réformes électorales. Ils font cette réforme, ce qui n'est pas du tout à la négociation avec les gens de la peau. Et les choses commencent vraiment à se détériorer à la ville de Oaxaca. Les commerces, déjà il n'y a pas une élite commerçante très importante, c'est un état très pauvre, qui vit beaucoup de tourisme. Donc à la ville de Oaxaca, les commerces commencent à fermer, les hôtels commencent à fermer. La violence est déchaînée parce que la police n'arrive pas à rentrer la nuit. Donc ce sont les citoyens eux-mêmes qui s'organisent pour défendre leurs maisons, leurs amis et tout ça. Donc c'est une forte tension. Il y a les hélicoptères qui commencent à survoler. C'est vraiment, il y a une ambiance de peur et des tensions très fortes. Donc il y a des affrontements. Il y a l'affrontement au mois d'octobre, la cité universitaire, c'est aussi très symbolique parce qu'aux années 80, il y a eu des émeutes aussi, ce qu'on appelait à l'époque les mouvements populaires, où il y a eu une lutte de la part des organisations, et des étudiants et d'un syndicat, du syndicat universitaire à l'époque pour gagner l'autonomie universitaire. Donc, en cité universitaire, on a à voir un affrontement entre les citoyens et la police fédérale qui finalement est envoyée. La police fédérale est envoyée après des émeutes où on ne sait pas bien si c'était vraiment les gens de la peau ou les gens de la police de la mort ou des envoyés du lycée qui commencent à brûler les voitures et ils ont brûlé les pouvoirs judiciaires et les archives du pouvoir judiciaire. Il n'y avait plus de pouvoir judiciaire. Donc c'est là où ils envoient la police fédérale. Et les gens de la peau, où il y a des femmes, il y a des enfants. Se réfugient en cité universitaire et la police fédérale les réprime. Donc, au mois de novembre, j'ai résumé un peu parce qu'il s'est passé plein de choses. Ah, il faut dire que l'une des choses qu'a fait la APO et que je trouve quand même très symbolique, c'est qu'ils ont pris les stations de radio. Et c'est par la radio qu'ils arrivent à organiser des actions. C'est oui, compañeros, il faut se mobiliser dans la rue, machin, parce qu'il y a un problème, il faut arriver vite. Compañeros, il faut bouger ailleurs, parce qu'il y a la police fédérale qui est là. Donc ça, c'est important, parce que les médias sont très fermés à Oaxaca, il n'y a pas une voix outre que celle du gouvernement. Et donc ça montrait vraiment une envie de changement. Donc, après l'affrontement en site universitaire, il y a eu la mort de journalistes de Indie Media, d'un Américain, et aussi la mort d'un journaliste local. Et c'est quand même très, très épatant que tout le monde ait réagi parce qu'un étranger a été tué, quand, depuis le début des manifestations, on comptait déjà avec minimum 10 morts du côté des instituteurs. C'est vraiment horrible que ce soit comme ça, quoi, cette sorte de narcissisme de la part des médias. Parce que c'est là où ils se sont dit, ah oui, voilà, il y a la répression. Donc, on s'attendait à un changement le 1er décembre. Ben non. Le gouverneur est toujours là. Les premiers jours de décembre, il y a des organisations de défense des droits de l'homme qui se sont fait intimider. Il y a eu des interrogations par des personnes cagoulées. Et une série de choses que... Ouais. Moi, je connais à peine parce que j'ai lu le rapport. La dernière fois où je suis allée, c'était en octobre. Et donc, je garde contact avec les gens qui sont sur place. Mais il y a plein de choses qui se passent qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas. Et le gouverneur est toujours là. Et donc aujourd'hui, Oaxaca se retrouve dans une situation très délicate, après 6 mois de tension, après toute cette perte au niveau du tourisme, du commerce. En même temps, il y a un processus de délibération dans les communautés, parce que c'est ça que tout le monde dit, oui, non, mais les problèmes de Oaxaca, ça reste un problème urbain. Et c'est pas vrai, parce que dans les communautés, il y a des choses qui se passent en ce moment, des choses qu'on connaît pas trop, parce que les temps des Indiens, c'est pas les temps des communautés, c'est pas les temps de la ville, dans le sens où ils font des consultations plus larges, des débats, ils essayent de prendre des décisions, de formuler, ils vont plus calmes, c'est pas les mêmes temps ni les mêmes réactions du syndicat par exemple.
Quel est l'état de la peau aujourd'hui?
L'état de la peau, c'est quand même qu'il y a une rupture. Il y a une rupture entre les syndicats de la section 22 et les organisations. Et l'état de la peau, c'est qu'il y a un manque de vision politique, un manque de stratégie.
Il n'y a pas eu de mouvement de solidarité en dehors de Oaxaca au Mexique ?
Très peu, très peu. Il y a eu des manifestations à la ville de Mexico, mais malheureusement, il y a eu ce croisement entre la mobilisation de la contestation de l'élection, la contestation de la gauche et la situation particulière de Oaxaca. Et moi, je suis très très déçue de la position de la gauche qui est restée et qui jusqu'aujourd'hui n'a montré que la défense de ses intérêts et la défense d'une position de pouvoir et qui n'a pas trop fait pour les gens de Oaxaca, qui c'est quand même un problème net, précise. Donc je ne sais pas ce qui va se passer. Moi je crois que quand même, après la peau, Oaxaca ne restera pas les mêmes. Ça a marqué. Ça a marqué les femmes au foyer, ça a marqué les instituteurs, ça a marqué les citoyens.
Et au niveau de la solidarité internationale, ça n'a pas été non plus...
Au niveau de la solidarité internationale, moi ce que je vois, il y a que c'est des manifestations comme ça, des lettres, mais l'impact est très très réduit.
C'est donc un mouvement qui n'est pas aussi... qui n'utilise pas Internet, par exemple, comme les apatistes ou comme Marcos.
Très peu, parce que sur Internet, le problème c'est que les gouvernements utilisent aussi Internet. Donc on tombe dans une guerre médiatique. Tout est sur Internet. Et en même temps, au niveau des médias nationaux, ils ne sont pas à des places. Hein. L'image que les médias montrent, c'est que la peau, ce sont des radicaux qui détruisent, qui brûlent. Un peu comme les mouvements, comme les émeutes des banlieues ici. Hein. Si on voit ce qui montre les médias, on ne va pas dire que les gens des banlieues ont raison. Il faut vraiment faire une lecture plus fine. Là-bas, c'est pareil.